Et nous accueillons Marie au 10, ça va mieux moi, au 39-21. Vous voyez là, c'est... Bonsoir Marie.
Bonsoir Olivier, je suis ravie de vous entendre.
Mais moi aussi, comment allez-vous?
Bah écoutez, ça va mieux parce qu'aujourd'hui, j'ai eu Florian, j'étais sur le parking du grand supermarché Lowe's, c'est un peu comme Monsieur Bricolage. J'étais très surprise qu'il m'appelle et ben, c'est un garçon épatant, il a une très belle âme.
Oui.
Et je voulais vous dire, vous avez beaucoup de chance.
Je sais, je le sais, vous savez, je me le dis tous les jours.
Ah, il est génial. Et aussi, il m'a convaincue parce que moi, je lui ai dit, vous savez, je vis ici depuis très longtemps et je ne suis pas allée à l'école, je ne m'exprime pas très bien. Je suis une farmer, entraîneur de chevaux de course à qui il est arrivé une vie vraiment incroyable. J'ai travaillé dans beaucoup de pays en Europe, que ce soit dans le nord de l'Europe. J'ai voyagé en Russie avec les chevaux. J'ai travaillé au Canada, j'ai travaillé aux États-Unis. Et un jour, il m'est arrivé, j'étais très malade quand je travaillais en France. Je commençais à être très, très épuisée.
Ouais.
Et nous avons eu un accident de voiture et nous avons découvert, pour faire court, parce que ma vie, c'est pas possible, Olivier, je vais prendre trop de temps. Elle est si aventureuse et riche que d'émotions, de malheurs depuis l'enfance, que c'est difficile de l'exprimer. Et j'ai eu un accident de voiture et on a découvert qu'il me restait, après une NDE fabuleuse, on a découvert qu'il me restait un an et demi à vivre.
Et qu'est-ce qu'une NDE?
Alors la NDE, c'est la Near Death Experience, c'est une expérience de vie après la vie, c'est-à-dire qu'on sent. Vous avez, bien avant que les urgences arrivent, parce que vous savez qu'il y a des gens, heureusement maintenant, il y a le professeur Chardonnier, des gens comme Eben Alexander qui font des conférences en France, qui était un neurochirurgien, qui lui-même était très... complètement pas du tout open au fait que l'âme ne meurt pas. Et moi, d'ailleurs, je ne croyais pas en Dieu. Alors, je peux vous dire que je ne croyais pas du tout à ces choses-là. J'ai une sœur, d'ailleurs, qui ne croit pas. J'ai mis 10 ans à en parler. J'ai étudié pendant 10 ans. Parce qu'au début, quand vous avez cette expérience, vous pensez que vous ne revenez plus, vous n'êtes plus la même personne. Et j'étais tellement en souffrance et épuisée. Et quand mon compagnon m'a dit, mon corps était comme vous savez, un corps mort, c'est un corps lourd, très lourd. Et moi, je ne faisais que 42 kilos. Hein, j'ai fait l'école du jockey de Chantilly, donc vous voyez, je fais 1m103 et je pesais peut-être 42 kilos. Et il m'a dit que j'étais très lourde. Et j'ai été inquiète. Pour vous résumer, quand vous avez quelqu'un de proche de vous, je veux que vous sachiez, il faut que personne ne soit inquiet par rapport à la mort, parce qu'on est inquiet le temps d'un battement de cœur. Vous voyez, c'est le temps d'un battement de cœur. C'est-à-dire que vous voulez ouvrir vos yeux, vous voulez pleurer, vous voulez parler, parce que vous entendez tout ce qui se passe autour de vous, et puis vous avez la vision de vous-même au sol, avec après les urgences qui arrivent et qui vous disent « Can you hear me ?» et ils vous crient après, vous vous trouvez dans une position très embarrassante, vous vous trouvez même d'ailleurs, vous dites « l'impression que j'ai eue, c'est « Ouh là là, j'ai vraiment une sale tête. Hein. » Évidemment, j'avais la colonne vertébrale fracturée, j'ai été touchée à la tête, mon corps a fait comme une balle de ping-pong à l'arrière, puisque je dormais en chien de fusil, il était 4h du matin, et qu'on allait d'une ferme à l'autre, et que j'étais épuisée. Et tout ça pour dire que l'expérience est extraordinaire, parce que quand vous revenez dans votre corps, croyez-moi, Olivier, je vais faire un peu d'humour, vous dites « Holy shit !» Non, vous vous dites « C'est pas possible, je suis de retour.
Bon. »
C'est tellement fabuleux que vous n'avez pas envie de revenir. Ce qui peut d'ailleurs être très dangereux pour ceux qui sont fragiles. Ce qui a été mon cas après par la suite.
D'accord.
Puisque les malheurs n'ont fait que de s'accumuler.
Alors, je crois que, en fait, quand Florian vous a appelé aujourd'hui, c'était suite à un message que vous nous avez laissé sur Facebook concernant votre vie aujourd'hui aux États-Unis où vous êtes seul, je crois. Hein.
Ah oui, et coincé.
Comment se fait-il que vous soyez aux États-Unis et coincé, dites-moi?
Ben parce que d'abord, au bout d'un moment, vous avez à renouveler vos papiers. Et comme l'a très bien expliqué cette artiste hier, cette jeune femme, elle a expliqué que c'était compliqué. Et depuis, c'est vrai que nous avons ce nouveau président. C'est devenu, à l'époque, pour avoir une green card, il fallait, moi je travaille aux États-Unis, j'ai commencé, j'avais 27 ans, il fallait avoir un an, vous avez un an d'attente pour une green card.
Oui.
Maintenant, vous pouvez vous dire que c'est 2 ans. Vous voyez la différence.
Oui.
Donc, quand vous arrivez au bout de vos papiers, vous devez prendre vos... Moi, j'ai commencé à travailler sur ma green card il y a plus de... en 2018. Donc, vous vous rendez compte, je viens d'obtenir mon autorisation. Et je dois attendre 6 mois pour pouvoir voyager, d'avoir ce papier. C'est... Mon avocat m'a dit, tu ne peux pas sortir. Donc, ça a été un drame parce que je me suis dit, ben voilà, je ne vais encore pas voir ma famille. Je n'ai pas pu assister au mariage de ma nièce qui s'est mariée avec un Américain en France. Je n'ai pas pu voir ma sœur qui m'a élevée parce que j'ai perdu maman quand j'avais 1 an. Elle m'a élevée à l'âge de 13 ans. Elle est dans un village où mes parents sont enterrés. Je n'ai pas pu y aller. Je ne peux pas voir l'homme de ma vie non plus. C'est très difficile. Il y a des gens qui sont dans cette situation. Il y a beaucoup aussi de gens qui sont dans une situation illégale à New York. Le maire les tolère. Nous avons aussi un maire et un gouverneur fabuleux à New York qui se débat en
vous,
ce moment.
Là, vous m'appelez de New York, donc, Marie ?
Non, moi, je vous appelle du Kentucky. Alors, du Kentucky. Au milieu des fermiers où il y a si les corbeaux avaient des ailes, ben vous voyez ce que je veux dire, je suis au milieu de nulle part, quoi.
D'accord. Et vous faites quoi là-bas?
On est très loin. Alors j'entraîne des chevaux de course et je les élève aussi.
D'accord.
Voilà. J'ai été une des premières femmes à avoir ma licence et mon rêve s'est arrêté le jour où on a découvert ma maladie. Il me restait 1 an à vivre et on m'a sauvée ici grâce à cet accident de voiture. Sinon, je ne serais pas là en train de vous parler. Et puis après, la vie a été faite de succès, de mauvaises choses. C'est-à-dire qu'un an après, ben, vous faites ce qu'on appelle de blood clot. C'est-à-dire qu'on a découvert que j'étais aussi malade, que mon sang il coagulait et que c'est de la confiture. Donc, je suis obligée de vivre avec un poison à rats et je prends des risques tous les jours. Mais vous savez, je ne suis pas la seule. Il y a plein de gens qui vivent avec ce traitement.
Ouais, vous m'avez l'air bien solide, hein, quand même, au final.
Ah ben, en fait, c'est que je suis tombée amoureuse d'un fou furieux qui... Parfois, je lui ai dit, c'est incroyable que je sois en vie. Après, j'ai fait une hémorragie interne. La dernière fois que j'ai eu une NDE, la deuxième fois, c'était au Canada, en intensivière, dans un aquarium, où les gens qui étaient autour de moi, ils étaient déjà morts cliniquement. Pour vous dire que je suis morte de douleur, tellement ça faisait 3 jours que je saignais. J'ai un ovaire qui a saigné. J'ai appelé mon cardiologue au Kentucky. Je lui ai dit, plus jamais ça. Donc, quand je suis rentrée, on m'a fait une hystérectomie complète, c'est-à-dire qu'on m'a pour plus que ça se reproduise, ce qui a été terrible dans ma vie aussi. Et ça s'est accumulé. Et puis un jour, eh bien, j'ai reçu un message parce que j'étais au bout du rouleau. Je me disais, mais moi, je ne veux pas vivre malade toute ma vie comme ça. Et je ne prévenais pas ma famille parce que je ne voulais pas leur dire. Et puis, je ne voulais pas parler de cette expérience. Je ne voulais pas parler. Et puis, un jour, j'ai reçu un message parce que j'avais étudié avec un policier qui s'appelle Christian Cambois, qui a écrit la divination avec le pendulum. J'ai commencé comme ça. Et un soir, je reçois un message. Et j'entends, tu vas pas mourir, tu as un don de Dieu, tu vas. Et puis c'était des messages au début, vous savez, très spirituels. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et comment vous l'avez reçu, ce message, en fait, par quel
Alors,
canal?
Eh bien, moi, je faisais déjà un peu avec mon pendulum, quand j'étais très désespérée. J'avais ce pendulum qui, c'était assez incroyable au début, parce qu'on mettait des cartes dans des enveloppes, et on mettait le roi, le pic, la reine. D'accord. Et le pendulum, quand je lui disais « Où est la reine ?», je ne savais pas qui me parlait. Et je disais « C'est un esprit dans cette maison qui est vieille. » Et je trouvais la reine. Alors des amis me disaient « Mais c'est pas possible, mais comment tu fais ça ?» Ben j'ai dit « Je ne sais pas. » Et puis on a commencé à jouer comme ça, à mettre un jeu de cartes. Par exemple, vous mettez le 7, le 8, le 9, 10 cartes sur la table. Et mes amis me disaient « Demande au pendulum où est la reine de cœur. » Boum, je trouvais la reine de cœur. Et ça a commencé comme ça. Et puis un jour, j'avais écrit des lettres sur un papier, et le pendulum, je lui disais, mais qui es-tu? Parce que moi, je me disais, je parle à quelqu'un, c'est pas possible. Il me dit, je m'appelle Edgar.
Oui.
Et je lui avais posé, et il me dit, je suis ton guide spirituel. Donc c'est incroyable que vous ayez cette personne, quelques minutes avant, j'ai entendu un peu, je ne me rappelle plus son prénom, parce qu'entre-temps, j'ai dû parler à Florian, et elle a dit quelque chose. Elle a dit, j'ai entendu une voix. Vous savez qui elle a entendu? Elle a entendu un guide spirituel. Ça, c'est ce qui arrive, parce que depuis, j'ai étudié, qui lui a dit les choses. Cette personne que vous venez d'entendre, qui a réalisé tous ses rêves, elle a eu un message de son guide spirituel. Elle ne le sait pas, mais moi, je le sais. Et tout ce que vous, elle vous a dit est vrai à propos de l'âme, qui, ces intuitions que nous avons, ces choses. Alors, moi, j'ai la grande chance d'avoir un guide spirituel qui me parle, parce que vous savez que les gens qui se prétendent médiums sont des gens qui, parfois, il n'y a pas de médium. C'est pas un métier. On est des messagers, on a ce don ou on l'a pas. Alors, au début, ils nous testent. Vous avez votre ego qui travaille. Et c'est grâce au pendulum et grâce à cet homme qui est un ancien policier, qui, lui, communique avec un guide spirituel et qui l'étudie, lui, la. Il s'appelle Christian Cambois. Il a écrit des bouquins sur le pendulum. C'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai eu mes premiers messages comme ça. Et j'ai fait des premières lectures à des gens. Pour vous donner un petit exemple, un jour j'avais 3 jeunes qui étaient autour de moi et ils m'ont dit « Ok, demande à Edgar, je fais quelque chose que je ne dois pas faire. » Et c'était une jeune fille. Il lui dit, c'était très marrant, il lui dit « Oui, il y a quelque chose que tu fais, Bianca, que tu dois arrêter de faire. » Et il lui dit « Il fallait aller, c'était terrible, Olivier, il fallait aller sur chaque lettre. Vous imaginez le temps que ça prenait à l'époque. Oui. Et il lui dit, tu fumes de l'herbe et tu dois arrêter. » Alors tout le monde a éclaté de rire, parce que moi je dis, comment ça, Bianca, tu fumes tous les jours? Et elle me dit oui. Et ça a été plein de petits messages comme ça. Alors il y avait une grand-mère qui était venue lui donner un message. Elle était très embarrassée, parce que vous savez, il y a des esprits, quand ils viennent vous donner un message, s'il y a beaucoup d'autres âmes qui sont, enfin d'autres personnes qui sont autour, il y a des gens qui sont un peu gênés, il y a des esprits qui sont un peu gênés, vous savez, des situations ou de choses qu'ils ont à dire. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre aux gens que au début, j'ai pensé que j'étais schizophrène. Et puis, comme j'arrive à trouver les numéros, si vous choisissez, j'ai fait ça l'autre jour avec ma sœur par Skype, pour la convaincre, et on dirait que le guide, des fois, il m'aide, vous savez, il dit, écoute, demande-leur de choisir un nombre entre 1 et 5. Oui. Alors, c'était un entraînement. Je suis capable de donner le numéro. Après, il dit, demande entre 1 et 10. Je dis, mais tu exagères, c'est super difficile. Et je le fais. Et j'ai une amie qui est Veto à Lexington, qui vient de Belgique. J'ai des amis qui sont du Danemark. Maintenant, ils me consultent. Ils me disent, voilà, demande à Edgar qui. Alors, ça, y a pas que de, je ne délivre pas que des messages. Alors, pour les gens de CD.
Vous vous doutez bien que je vais vous poser des questions sur le coronavirus, parce que vous êtes aux États-Unis.
Alors, c'est une catastrophe. Oui, parce que le coronavirus, ici, si vous voulez, moi, quand c'est arrivé, j'étais déjà au courant par mon compagnon en France qui a eu la chance d'avoir une information 5 semaines avant que vous soyez par un grand chirurgien de Marseille qui l'a opéré. Il lui a dit, ça va être une catastrophe. Et ici, les gens n'ont pas pris ça au sérieux et nous, ça continue. C'est-à-dire que même en ayant des containers de corps, maintenant ils mettent les corps dans des remorques réfrigérées, ils voient ça à la télé et moi je vais faire mes courses, je me sens seule avec un masque et mes gants dans le petit coin, là, le petit bled où je suis.
Est-ce que vous consultez Edgar pour toute cette situation, par exemple?
Oui. Il m'a expliqué, il m'a dit, je lui ai dit, mais enfin Edgar, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Et il me dit, mais tu es déjà seule, isolée, malheureuse, parce que tu ne peux pas bouger, tu ne vois pas ta famille, tu crois que j'allais t'annoncer une catastrophe pareille? Ils ne nous disent qu'ils sont autorisés à nous dire, ils ne nous disent pas tout. Il m'a dit, c'est une leçon pour l'humanité, tout entière. Que l'on parle. Alors, on parle. Vous voyez, lui, il décrit ça comme une. Comme par exemple, vous avez les gens, quand ils ont leur télévision et qu'ils voient des choses horribles qui se passent dans le tiers-monde, ils ont cette vision horrible. Alors, ils passent devant la télévision. Oh mon Dieu, ces Africains qui ne mangent pas, ou ces gens, ou ces petits Syriens qui sont sous les bombes, ou en Irak, là, on n'en parle pas. Mais les gens, ils souffrent depuis des années et des années là-bas. Eh bien, on n'est pas concerné parce que ce n'est pas devant nous. On passe devant la télévision, on a un peu d'empathie, on dit « mais c'est loin de nous ». Et là, d'un seul coup, c'est à la porte de tout le monde dans le monde entier. Donc lui, il me décrit cela comme une leçon pour l'humanité, pour l'homme qui ne prend pas soin de la planète, pour la pollution, pour l'endroit en Chine où le virus s'est développé, on ne voyait jamais le ciel. Les gens là-bas, ils portaient déjà des masques. Ils vivaient dans une pollution insupportable.
Mais donc, du coup, Est-ce que cette relation spirituelle, Manuel, elle vous aide, Marie, pardon, elle vous aide à supporter votre situation là-bas aux États-Unis, parce que vous êtes assez seule finalement avec vos chevaux là-bas en ce moment. Vous
complètement seule avec deux employés mexicains et beaucoup d'humour et un veto qui vient, qui est courageux, qui
d'accord.
continue de venir. On
et dans le Kentucky, on prend les choses au sérieux. Quelles sont les mesures qui ont été prises là
Alors il y a nous avons la chance à Lexington, à la ville. Je parle beaucoup avec des amis infirmières, docteurs, chirurgiens, puisque ça fait très longtemps que je suis malade, donc je suis très bien suivie. Et à Lexington, oui, mais dans les campagnes, non. Dans une ville comme une petite ville où là où je suis, moi je suis au Walmart il y a 15 jours avec un masque et je suis la seule à avoir un masque, des lunettes, parce qu'il faut porter des lunettes aussi, des gants. Parce que moi, mes amis médecins m'ont dit « tu fais ça, j'étais, j'étais seule. » Et ils ne respectent pas les distances et ils vous regardent. Alors j'ai une amie qui est très drôle, qui est l'assistante d'un très grand chirurgien. Alors elle se promène et elle me dit « écoute, moi j'ai de la chance parce qu'ils doivent croire que je suis malade, ils s'éloignent de moi naturellement. » Moi je dis « moi, même avec ça, là, dans le coin où je suis, ou qui est plus campagne, qu'on appelle le coin des rednecks, vous savez, c'était des gens qui ont cultivé la terre, qui avaient le cou rouge parce qu'ils étaient très courageux. Mais nous, ici, on a beaucoup de drogues, de meth, de choses terribles.
Oui. Américains se droguent beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de drogues aux États-Unis par rapport à vous qui êtes française.
Oh là là, c'est une catastrophe.
C'est assez catastrophique quand on va là-bas. Moi, je remarque tout ça. Et puis, on le voit aussi dans les séries américaines. Les Américains consomment beaucoup de drogues, quoi. C'est un marché.
Ils sont accros aux médicaments. Moi, j'ai été traitée avec des opiacés, de la morphine.
Oui, beaucoup de gens sont morts à cause de ça, en plus.
Ah, bah oui, parce que le problème, c'est. Alors, moi, je ne comprends pas. Ils sont tombés dépendants aux opiacés. Et moi, c'est tout l'opposé, parce que comme je suis une boulimique de travail et workaholic, si vous voulez, moi, les opiacés, les médicaments, moi, ma copine Veto, un jour, elle vient chez moi, elle me dit « laisse pas ces médicaments à la vue des gens chez toi, parce que tu sais qu'ils les vendent ». Je lui dis « mais comment ça ?» Et ben oui, ils volent les prescriptions de la grand-mère. Moi, je ne me vois pas en France voler la prescription. J'ai plus de grand-mère, la pauvre. Mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un monde à part. Ils sont dépendants très vite à certaines choses, alors que nous, on ne va pas aller voler une prescription d'une grand-mère. Moi, j'ai été suivie pour un cancer aussi, et la cancérologue me disait « avez-vous besoin de pain pills, le médicament pour la douleur ?» Je disais « surtout pas, parce que mon cerveau, il est ralenti, et j'ai l'impression que conduire même ma voiture, c'est dangereux avec ce truc, quoi. » Donc moi, quand je conduis, je fais très attention autour de chez moi, parce qu'il y en a beaucoup, et je fais gaffe, parce qu'ils n'ont pas les réflexes, c'est des endormis. D'ailleurs, ils se déplacent comme des tortues, hein. Quand ils sont sous ce truc-là. Vous pouvez l'apercevoir, ils parlent lentement, ceux qui prennent du meth, ils ont 25 ans et ils en font 65. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils
oui,
sont explosés.
Mmh.
Alors, ils sont encore plus dangereux, parce que leur système immunitaire est complètement destroyé. Donc, c'est pour ça que ça va être une catastrophe.
Vous comprenez, mais je pense que vous avez raison de dire que ça va être une catastrophe aux États-Unis, parce qu'on a vu déjà... On entend beaucoup parler de New York en ce moment, parce que New York a enfin pris conscience de la gravité du phénomène.
Oui, la Californie, Chicago.
Mais le Kentucky, c'est sûr qu'on n'en a pas encore entendu parler, et de tous ces États, hein, finalement, qui sont qui ne sont pas au bord de la mer.
Oui, à l'intérieur, où il y a moins de gens qui ont reçu de l'instruction.
Et puis, c'est une Amérique spécifique, comme vous le dites. Une Amérique que l'on connaît peu. Hein. Cette Amérique a élu Trump, d'ailleurs.
Ah, vous ne la connaissez pas, celle-là.
Non, elle est assez...
Parce que quand les Français, ils viennent ici, ils ne le croient pas.
Ça doit être quelque chose.
Ils me disent, on dirait qu'on est en retard. Mais oui, parce qu'ils font des gosses à 17 ans, l'avortement est très mal vu. Alors, vous avez des enfants dans les caddies, avec un petit couple de 17 ans. Et j'ai expliqué à Florian, ils ont 5 ou 6. Et puis après, ces gens-là, ils finissent au front, en Irak, parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Alors, ils finissent souvent militaire, ça fait peur. Mais tout est organisé pour ça. Et Gare me l'a très bien expliqué. Il y a des âmes qui contrôlent les âmes depuis les millénaires. C'est comme ça que ça va continuer. Mais par contre, il y a quelques encouragements. Parce que moi, ce que je reçois comme message des gens qui sont de l'autre côté, c'est que nous avons besoin, malheureusement, d'avoir des horreurs comme ça pour être conscients et puis aussi pour que certains s'ouvrent à de l'empathie. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand vous pensez en France qu'il y a des infirmières, on leur dit « allez déménager ailleurs parce que vous êtes peut-être contagieuse ». Je veux dire, cette catastrophe va amener pas que des mauvaises choses.
Bah, vous entendiez peut-être tout à l'heure notre premier témoignage, celui de Mathias, qui nous parlait de sa situation plutôt... une drôle de situation à Goa, où il a été... chassé par les habitants.
Ah, je ne suis pas du tout surprise. Ouais. Pas du tout surprise. Ils les battent avec des bâtons. Il a parlé d'un journaliste qui a été automatiquement placardé sur sa porte. Et ça, ce n'est pas une surprise parce que moi, tout cela, il me l'a dit. Il m'a dit, nous allons voir. C'est pour ça que c'est une leçon dans le bon sens. Et aussi, on va les gens racistes, les gens qui vont dans la panique avoir des comportements comme des comportements, on va dire, du Moyen-Âge. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Avec une l'inacceptance des différences. Et quand vous parlez, vous avez cette chance de communiquer avec les gens qui sont de l'autre côté. Et ils vous disent toujours, d'ailleurs, c'est pour ça que je disais à Florian, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de charlatans qui disent on peut poser des questions aux esprits qui sont de l'autre côté. Moi, on peut poser des questions à son guide spirituel. Mais quand vous contactez une personne décédée, elle vous dit juste une chose. La mort n'existe pas. Et elle vous dit, c'est bien plus... Moi, mon guide, le message que j'avais reçu, et c'est d'ailleurs souvent dans les communications d'amis à moi qui viennent me dire, je voudrais recevoir un message de telle personne. Est-ce qu'on peut essayer? Parfois, je leur dis, ça va peut-être être possible. Parfois, non, c'est pas sur commande. On n'a pas un cell phone. Et ils ne répondent pas à vos questions parce qu'ils utilisent mon énergie. Donc, c'est très court parfois, les messages. Mais c'est toujours des messages concernant l'humanité, en disant nous laissons notre enveloppe corporelle sur la Terre. Nous sommes ici, d'ailleurs, elle l'a très bien dit, votre auditrice, qui était avant moi. Nous avons ce chemin de l'âme et nous avons à poursuivre et à évoluer. On vient pour une expérience. Et il faut, l'expérience, elle va être difficile, mais c'est notre choix. Moi, mon guide spirituel, il peut donner. Si vous le consultez, il peut vous donner votre passé, votre présent, votre futur, parce qu'il peut voir votre âme, il peut voir le chemin de votre âme. On a tous un chemin d'âme. Moi, je l'ai compris après. J'ai compris tout ça parce que j'ai étudié et il m'a enseigné des choses. Je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, qu'est-ce que Dieu pense de la peine de mort? Il m'a dit un jour, mais Dieu, il pense que l'âme va le corps de ce prédateur, le serial killer, il est mort. Mais, alors ça va l'empêcher s'il est arrêté de tuer, mais on va pas tuer son âme, elle va retourner d'où elle vient. Et il y a un exemple qui est fabuleux. Je lui ai demandé un jour, mais quelle est la meilleure description pour aider les gens qui ne me croient pas? Il m'a dit, tu leur dis de regarder le film Home de Chico Ravier. Et bon, même si Chico Ravier c'était un peu religieux, il n'y a pas de religion. Moi, il m'a toujours dit, il n'y a pas de religion. Mais tout a été toujours écrit, et il y a beaucoup d'écrits qui ont été modifiés pour contrôler l'âme. Et on contrôle les esprits, on contrôle l'âme, on est contrôlé par des gens qui n'ont pas des belles âmes. Il y a sur Terre des bonnes âmes, des mauvaises âmes, et malheureusement, on fait avec.
Et le contrôle général est beaucoup plus assuré par les mauvaises âmes que les bonnes, croyez-moi.
Ah ben bien sûr,
parce que
vous avez les petites fourmis en bas, les pauvres qui subissent,
oui.
Et qui travaillent et qui parient, et puis vous avez après un étage et un autre étage, et ceux d'en haut, alors je peux vous dire qu'ils en ont rien à foutre qu'on va perdre des milliers de gens, ils en ont rien à foutre de polluer la planète, parce qu'il faut faire de l'oseille, et Edgar m'a expliqué qu'on est contrôlé depuis toujours, et que...
Mais c'est un peu la nature humaine, ce résultat-là, Edgar, il doit vous en parler de ça, de vous dire que finalement, l'homme il est pas si bon que ça. Au final, on en parlait hier soir, on disait que sont souvent les méchants qui gagnent à la fin, au final.
Alors, il explique, Ah, c'est vrai, mais il explique qu'il y a un... Et moi, souvent, quand je suis découragée, il me dit « Ne t'inquiète pas, parce que ça prendra des siècles et des siècles, mais il y a une révolution spirituelle qui a commencé, on parle de plus en plus de soins énergétiques, on va revenir plus près de la nature, ça a déjà commencé un peu, on parle avec moins de crainte des NDE, on parle de maintenant de plus en Europe de Eben Alexander, de Edouard Cassy, de Chico Ravi. On parle de Raymond Mandy qui avait du mal à l'époque à sortir son livre sur le chemin de l'âme, sur les expériences, sur le fait que l'âme, la vie après la mort, c'était possible. Et moi, j'ai étudié ça pendant très longtemps. J'ai travaillé aussi avec une dame qui s'appelle Annick Daigle, qui a perdu sa fille Vanessa Melet en 2016 en Normandie. Je lui ai, sur Langueville-sur-Mer, ça fait 4 ans qu'elle se bat. Et moi, ça fait un an et demi qu'on se bat avec, parce que la police, parfois, il y a des gens policiers, c'est comme partout. Vous avez des bonnes âmes dans la police, vous avez des bonnes âmes au gouvernement.
Bon, il y a des bonnes âmes, oui, il y a des bonnes âmes partout, et puis il y en a des mauvaises partout, vous avez raison. Bon, Manu, je vais être...
Et personne ne nous écoute.
Non, il n'y a pas grand monde, en tout cas. On va être
obligé... Mais moi, je vous coupe.
On va être obligé de se quitter, mais dites-moi comment ça se passe pour vous, là, en ce moment. Vous vous sentez un peu seul ?
C'est très dur, parce que... Oui, parce que je dois me battre contre mes employés qui veulent pas se protéger. Je dois supporter les gens qui prennent pas ça au sérieux. Et vous avez beau leur dire, vous avez beau leur dire de prendre les précautions, parce que je suis bien placée, je suis tout le temps en contact avec des docteurs et rien. Et ça va être bien pire que les chiffres que notre président a donnés. C'est comme la Chine qui n'a pas donné les bons chiffres, bien sûr. Et ça, mais je veux quand même donner de l'espoir aux gens. Il y a quand même des gens aux États-Unis, il y a des gens, parce qu'on n'a pas le choix ici, il n'y a pas d'aide. On n'a pas en France le système médical, donc on n'a pas les choses qui sont payées, donc les gens ne peuvent pas se soigner, donc il y a quand même beaucoup de solidarité. Ils ont cette qualité, c'est que bon, alors certains ne se rendent pas compte, mais par contre il y a quand même beaucoup d'entraide entre
bah, heureusement, Marie, parce que vous vous rendez compte par rapport à la non-protection qu'il y a aux États-Unis, en fait beaucoup en France ne se rendent pas compte hein, de la chance qu'on a d'avoir l'hôpital gratuit, les médicaments gratuits, le médecin gratuit. Aux États-Unis, tout ça, ça n'existe pas.
Ah, c'est une catastrophe. Moi, j'ai des amis qui ne peuvent pas se soigner financièrement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de charité.
Ah,
ben les dents, c'est même pas. Ah, ben ici, ils n'ont plus de dents.
Hein. Oui, dans le Kentucky, ils n'ont plus de dents.
Ah non, et puis il n'y a pas que dans le Kentucky, en Indiana, en Ohio. Moi, je voyage partout avec les chevaux quand j'allais aux courses. Je disais, c'est une catastrophe à mes amis, mais ils me disent, mais Marie, on peut pas, ils peuvent pas se soigner. Non, ils peuvent déjà pas s'acheter. C'est pour ça que les médicaments dans les Walmart, il y a beaucoup d'automédication. Vous voyez,
bon, en tout cas, vous prenez soin de vous, hein, surtout. Hein, vous prenez soin de vous, vous faites bien attention à vous. Et je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai encore quelqu'un derrière vous, Marie, qui attend depuis tout à l'heure.
Que les gens restent positifs et que les gens rient et que les gens essaient de garder leurs énergies parce qu'ils vont, perdre leur immune système. La peur, c'est ce qu'il m'explique, la peur paralyse et la peur détruit l'immune système.
Comme disait tout à l'heure, voilà, comme disait tout à l'heure Mélanie, il faut penser que la vie ne joue pas contre nous, mais avec nous. En tout cas, merci Merci mille fois, Marie.
Embrassez
Kentucky pour
et
nous.
Et vous avez une très belle âme et elle n'est pas sec, la vôtre.
Moi, je vous remercie.
Et j'embrasse ma vieille sœur qui m'a élevée. Et moi, je vous dis aussi, Olivier, c'était sur votre chemin de vie. Vous êtes le prêtre du 20e siècle. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on se comprend. C'est-à-dire que vous avez cette écoute qui aide beaucoup les gens, partout. Et sachez que vous êtes écouté ici aussi par d'autres gens.
Eh bien, écoutez,
Français,
super, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir.
Ah oui, ils vous adorent, les gens.
Ah bon, écoutez, super. Mais écoutez, je vous embrasse
surtout,
bien fort.
Surtout, dites bien aux gens, essayez de rire, de plaisanter et surtout, gardez la foi. Même s'ils ne sont pas religieux, il faut y croire.
Okay.
On va en sortir.
Très bien,
on
Marie. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne nuit. Au revoir.
Merci Olivier.
Au revoir.